Chapitre 4. Obéissance à la parole de Dieu. Écoutez et pratiquez pour vivre et posséder le pays. Et maintenant, Israël, écoute les statuts et les ordonnances que je vous enseigne pour les pratiquer, afin que vous viviez et que vous entriez dans le pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous donne et que vous le possédiez. Verset 1. Ici nous est présenté très nettement le caractère particulier de tout le livre du Deutéronome. Écoute et pratique, afin que vous viviez et que vous possédiez. Dans un sens, c'est un principe général, vrai pour Israël et vrai pour nous, mais avec d'importantes différences sur lesquelles nous nous arrêterons plus loin. Dieu ne nous a pas donné sa parole pour l'examiner ou la discuter, mais afin que nous y obéissions. Il faut que nos cœurs soient soumis au commandement divin pour que nous puissions marcher dans le sentier de la vie et jouir réellement de toutes les richesses que nous possédons en Christ. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Jean 14, verset 21. Être un enfant ou être un enfant obéissant sont deux choses. Comme aussi être un racheté ou aimer le Sauveur et trouver sa joie à garder ses paroles. Dans une famille, un père éprouvera sans doute un sentiment particulier pour un fils obéissant, tandis qu'un fils indocile, rebelle et égoïste sera pour lui un sujet de peine, d'inquiétude et de prière. L'obéissance est agréable à Dieu, et ses commandements ne sont pas pénibles, 1 Jean 5, verset 3, puisqu'ils sont l'expression de son amour, le résultat de la relation dans laquelle nous sommes avec lui. En outre, Dieu rémunère notre obéissance en se manifestant plus pleinement à nos âmes et en demeurant avec nous. C'est ce qui ressort de la réponse de notre Seigneur à la question de Jude. « Seigneur, comment se fait-il que tu vas te manifester à nous et non pas au monde ?» Jésus répondit et lui dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Jean 14, versets 22 et 23. Le Seigneur se manifestera lui-même à ses rachetés obéissants, à ceux qui ont ses commandements et qui les observent, à ceux qui l'aiment et qui gardent ses paroles. La loi et la grâce. Il est important pour le lecteur de bien comprendre que lorsque notre Seigneur parle de ses commandements, de ses paroles et de ses préceptes, il n'entend pas les 10 commandements ou la loi de Moïse. Sans doute, ces 10 commandements font partie de la parole inspirée de Dieu. Mais confondre la loi de Moïse avec les commandements de Christ, ce serait confondre le judaïsme avec le christianisme, la loi avec la grâce. L'enseignement du Nouveau Testament établit indubitablement que le chrétien n'est pas sous la loi, qu'il n'est pas du monde, ni dans la chair, ni dans ses péchés. Le solide fondement de tout ceci est la rédemption accomplie que nous possédons en Jésus-Christ, en vertu de laquelle nous sommes scellés du Saint-Esprit. Ainsi, nous sommes inséparablement unis et identifiés à un Christ ressuscité et glorifié. En sorte que l'apôtre Jean peut dire, en parlant de tous les croyants, « Comme il est, lui, nous sommes nous aussi dans ce monde. » 1 Jean 4, verset 17. Ceci résout toute la question. La différence entre le système de la loi et le christianisme est la même qu'entre la mort et la vie, l'esclavage et la liberté, la condamnation et la justice, l'éloignement et la proximité, le doute et la certitude. La tentative d'unir ces deux principes, comme si c'était deux branches issues du même tronc, est une chose monstrueuse dont il ne peut résulter que confusion et désolation. Plusieurs âmes pieuses mais mal enseignées croit sincèrement que le seul moyen possible de parvenir à l'obéissance et à la sainteté pratique, c'est de se placer sous la loi. À leur point de vue, cesser d'avoir les 10 commandements comme règle de conduite, c'est enlever les grandes digues morales placées par la main de Dieu pour arrêter le cours des dérèglements de l'humanité. Mais que dit l'Écriture ? Car le péché ne dominera pas sur vous, parce que vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Romains 6, verset 14. Le Saint-Esprit déclare de la manière la plus simple et la plus emphatique que les chrétiens ne sont pas sous la loi. Si nous étions sous la loi, le péché dominerait sur nous. En effet, nous trouvons dans l'Écriture que les mots péché, loi et chair sont invariablement liés. Il est impossible qu'une âme sous la loi jouisse de la délivrance de la domination du péché. Placer les âmes sous la loi est le sûr moyen de les assujettir au péché. Un peu plus loin dans l'Épître aux Romains, nous lisons « C'est pourquoi, mes frères, vous aussi vous avez été mis à mort à la loi par le corps du Christ pour être à un autre, à celui qui est ressuscité d'entre les morts, afin que nous portions du fruit pour Dieu. » Chapitre 7, verset 4. L'apôtre ne dit pas que la loi est morte, mais que nous sommes morts à la loi. Par la mort de Christ, nous sommes sortis de la sphère à laquelle la loi s'appliquait. Christ a pris notre place, il a été placé sous la loi, et sur la croix il a été fait péché pour nous. Mais il est mort pour nous, et nous sommes morts en lui. Ainsi, il nous a sortis de la position dans laquelle nous étions assujettis au péché, et sous la loi, pour nous introduire dans une position entièrement nouvelle, dans une union vivante avec lui-même ressuscité, en sorte que nous pouvons dire « Comme il est, lui, nous sommes nous aussi dans ce monde. » 1 Jean 4, verset 17. Christ, dans la gloire, est-il sous la loi? Assurément non. Eh bien, nous non plus. Comme Christ se tient en présence de Dieu, nous y sommes aussi quant à notre position. C'est pourquoi nous replacer sous la loi serait le renversement complet de notre position chrétienne, en contradiction flagrante avec la doctrine précise et positive que l'Écriture sainte nous donne sur ce sujet. Le moyen de Dieu pour nous soustraire à la domination du péché a été de nous délivrer de la loi. Ainsi donc, ceux qui enseignent que les chrétiens sont sous la loi sont simplement en contradiction avec Dieu. Il se pourrait qu'un croyant se demande encore « Cette puissance de la loi étant ôtée, n'y a-t-il pas danger de relâchement et de légèreté ?» À ceci, nous répondrons que Dieu est plus sage que nous. Il sait mieux que nous comment remédier au relâchement et à la légèreté et comment produire la vraie obéissance. La loi a été essayée. Qu'en est-il résulté? Elle a produit la colère. Elle a fait abonder le péché. Elle en a stimulé l'activité. Elle a fait régner la mort. Elle était la puissance du péché, privant le pécheur de tout pouvoir. Elle l'a tué et a été sa condamnation, maudissant tous ceux qui avaient affaire avec elle. Car tous ceux qui sont sur le principe des œuvres de loi sont sous malédiction. Galates 3, verset 10. Il en a été ainsi, non à cause de quelque défectuosité de la loi, mais à cause de la complète incapacité de l'homme à l'observer. L'obéissance de Jésus-Christ. Il est donc nécessaire de placer sur sa vraie base pour le chrétien l'enseignement présenté au premier verset de ce chapitre. Si Israël était appelé à écouter et à pratiquer, combien plus nous qui sommes si richement bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens 1, verset 3. Nous sommes appelés à l'obéissance de Jésus-Christ. 1 Pierre 1, verset 2. À la même obéissance que celle qui a caractérisé la vie de notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ. En lui, cela va sans dire, il n'y avait aucune influence contraire, comme, hélas, c'est le cas pour nous. Mais nous sommes appelés à la même obéissance que lui. Nous devons marcher sur les traces de Jésus. Celui qui dit demeurer en lui doit lui-même aussi marcher comme lui a marché. 1 Jean 2, verset 6. En considérant cette marche, nous trouvons un fait qui se lit d'une manière remarquable au livre du Deutéronome. C'est la place que Jésus a donnée constamment à la parole de Dieu. Dans tout le livre que nous étudions, la parole de Dieu est partout signalée comme seule règle, seul modèle et seule autorité pour l'homme. Elle s'applique à ses besoins en toute position, en toute sphère d'activité et à chaque phase de son histoire morale et spirituelle. Cette parole lui donne les directions pour chaque difficulté, s'occupant même des moindres détails. Ne rien ajouter, ne rien retrancher. Le chapitre placé devant nous abonde en exhortations fondées sur le fait qu'Israël avait entendu la parole de Dieu. Il y a celle-ci en particulier, qui devrait être profondément gravée dans le cœur de chaque chrétien. Vous n'ajouterez rien à la parole que je vous commande et vous n'en retrancherez rien. Verset 2. Il ne faut rien ajouter à cette parole, pour la simple raison qu'il n'y manque rien. Et rien à y retrancher, parce qu'elle ne contient rien de superflu. Tout ce dont nous avons besoin s'y trouve, et l'on ne saurait se passer de rien de ce qu'elle contient. Elle est vraiment la parole de Dieu, du commencement de la Genèse à la fin de l'Apocalypse. Toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, et parfaitement accompli pour toute bonne œuvre. 2 Timothée 3, versets 16 et 17. Sans cette parole, nous serions comme un vaisseau sans boussole et sans gouvernail, abandonné et jeté çà et là sur l'océan agité des pensées de l'homme. Quelqu'un demandera peut-être si la longue suite de généalogies contenue dans les premiers chapitres du premier livre des Chroniques est vraiment pour notre instruction, si elle nous est utile. Nous ne doutons pas que l'intérêt et l'importance de cette généalogie seront pleinement prouvés par la suite dans l'histoire du peuple d'Israël, auquel elle se rapporte spécialement. Quant au profit à en retirer pour nous, nous avons là une leçon des plus précieuses concernant les soins fidèles de l'Éternel envers son peuple et l'intérêt plein d'amour qu'il porte à tout ce qu'il concerne. Bien que ce peuple soit aujourd'hui déchu et dispersé, Dieu continue à veiller sur lui de génération en génération. Il connaît tout ce qui concerne les 12 tribus. Il les manifestera au temps convenable et les établira dans l'héritage qui leur est destiné au pays de Canaan, selon sa promesse à Abraham, Isaac et Jacob. N'est-ce pas une précieuse instruction, une consolation pour nos âmes, de voir la vigilance et les soins de notre Père envers son peuple terrestre? Malgré cette précieuse instruction, nous ne prétendons pas que ces chapitres des Chroniques offrent autant d'intérêt que, par exemple, le 17e chapitre de Jean ou le 8e de l'Épître aux Romains. Mais nous sommes certains que chaque portion de la parole, étant divinement inspirée, a son utilité et qu'un chapitre ne peut remplir le but d'un autre. Il est important, par-dessus tout, de se rappeler que nous ne sommes pas aptes à juger de ce qui est ou n'est pas digne d'avoir place dans le canon inspiré. Nous sommes ignorants et bornés, et la portion même, qui pourrait nous sembler au-dessous de la dignité de l'inspiration, peut avoir une portée très importante dans l'histoire des voies de Dieu envers le monde ou envers son peuple. Notre foi en la divine inspiration de chaque ligne de l'Écriture, du commencement à la fin, n'est basée sur aucune autorité humaine quelconque. Ce serait placer cette autorité au-dessus de la Bible. Nous n'avons pas davantage recours à l'autorité humaine pour confirmer la parole de Dieu qu'à la flamme d'une bougie pour prouver que le soleil brille. L'inspiration entière des Saintes Écritures doit être, pour ce qui concerne nos âmes, une vérité fondamentale à laquelle nous tenons plus qu'à la vie même. Toutes les choses qui ont été écrites auparavant ont été écrites pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation des Écritures, nous ayons espérance. Romains 15, verset 4. Nous aurons l'occasion de voir dans le livre entier du Deutéronome qu'il n'est pas tant question d'ordonnances particulières, de rites ou de cérémonies, que du poids et de la dignité de la parole de Dieu elle-même, quel que soit l'objet que cette parole place devant nous. Un témoignage devant les nations. Regarde, je vous ai enseigné les statuts et les ordonnances comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous fassiez ainsi au milieu du pays où vous allez entrer pour le posséder. Et vous les garderez et les pratiquerez, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront tous ces statuts et diront « Quel peuple sage et intelligent que cette grande nation !» Versets 5 et 6. La sagesse et l'intelligence d'Israël devaient consister à garder et à pratiquer les statuts et les ordonnances divines. Ce n'était pas par des discussions savantes ou des arguments qu'elle devait se montrer, mais par une obéissance entière. Toute la sagesse était renfermée dans les statuts que Dieu avait établis pour eux, et non pas dans leurs pensées ou leurs raisonnements à ce sujet. La sagesse merveilleuse de Dieu ressortait de sa parole et était ce que les nations devaient voir et admirer dans la conduite de son peuple. Mais hélas! Les actions d'Israël apprirent bien peu aux nations de la terre à connaître Dieu et sa parole. son beau nom fut souvent blasphémé à cause d'eux. Au lieu d'obéir au commandement divin, ce peuple privilégié s'abaissa au niveau des nations qui l'entouraient, adopta leurs habitudes et adora leurs dieux. Comment, en voyant la dégradation morale de ce peuple, les nations auraient-elles pu reconnaître la sagesse et la gloire des statuts divins dont Israël se vantait être le dépositaire et qui le condamnait? Cependant, quoi qu'il en soit des manquements de son peuple, la parole de l'Éternel subsistera à jamais. Et si la puissance de cette parole n'a pas été démontrée par la conduite d'Israël, elle a brillé par le jugement de son infidélité. Car quelle est la grande nation qui est Dieu près d'elle, comme l'Éternel notre Dieu est près de nous, dans tout ce pourquoi nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation qui est des statuts et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je mets aujourd'hui devant vous? Versets 7 et 8. Quel privilège inestimable en tous les âges et en tous lieux, pour un peuple, pour une famille, pour un individu, d'avoir le Dieu vivant près de soi, de pouvoir l'invoquer en toutes choses, sachant que sa puissance et sa grâce s'exercent sans cesse en notre faveur. Ce privilège est réservé à ceux qui, par grâce, sont rendus capables d'obéir à la parole divine. Dans tous les temps, la faveur divine est la précieuse récompense de l'obéissance. Responsabilité individuelle et familiale. Seulement prends garde à toi, et garde soigneusement ton âme, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues, et afin que, tous les jours de ta vie, elles ne s'éloignent pas de ton cœur, mais que tu les fasses connaître à tes fils et aux fils de tes fils. Verset 9. Chacun dans le peuple de Dieu était responsable de garder soigneusement son cœur pour ne pas oublier la parole de Dieu. Et de plus, chacun était responsable d'instruire ses enfants et ses petits-enfants. Et nous, chrétiens, avec toute la lumière et les privilèges que nous possédons, serions-nous moins responsables qu'Israël? Il nous est indispensable d'étudier avec soin la parole de Dieu et d'y appliquer nos cœurs. Il ne suffit pas de lire à la hâte chaque jour quelques versets par routine, mais nous devons faire de la Bible une étude sérieuse et approfondie pour y trouver notre plaisir et notre édification. Si nous ne lisons la Bible que par devoir, nous en resterons à une connaissance superficielle. Nous resterons étrangers à sa profondeur et à sa gloire morale. Quelqu'un dira peut-être « Nous ne pouvons pourtant pas toujours lire la Bible. » La question est plutôt « Aimons-nous réellement la parole de Dieu ?» On lit quelques chapitres plus loin « Mettez ces miennes paroles dans votre cœur et dans votre âme et liez-les pour signes sur vos mains et qu'elles soient comme des frontaux entre vos yeux. » Chapitre 11, verset 18. Le cœur, l'âme, la main, les yeux, tout est engagé au sujet de la parole de Dieu. Il s'agit de réalité, non de forme vide ni de stérile routine. On lit aussi « Et vous les enseignerez à vos fils en leur parlant quand tu seras assis dans ta maison et quand tu marcheras par le chemin et quand tu te coucheras et quand tu te lèveras et tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » Chapitre 11, versets 19 et 20. La parole de Dieu a-t-elle une telle place dans nos cœurs, nos maisons et nos habitudes? Quiconque entre chez nous peut-il voir la parole de Dieu tenue en honneur? Ceux avec lesquels nous avons affaire dans la vie journalière voient-ils que nous sommes guidés par les préceptes des Saintes Écritures? Nos enfants voient-ils que nous vivons dans l'atmosphère de l'Écriture et que notre caractère et notre conduite sont gouvernés par elle? C'est ici une pierre de touche pour nos cœurs, bien-aimés lecteurs chrétiens. Il ne peut y avoir d'indicateur plus exact de notre état moral et spirituel que la manière dont nous traitons la parole de Dieu. Désirons-nous chaque jour l'heure tranquille que nous pouvons consacrer à la lire et à la méditer, dans le particulier ou en famille? La nouvelle nature aime la parole de Dieu, la désire avec ardeur, comme nous le lisons en 1 Pierre 2, versets 2 et 3. Désirez ardemment, comme des enfants nouveau-nés, le pur lait intellectuel, afin que vous croissiez par lui. Si la parole a sa vraie place dans le cœur, elle l'aura aussi dans la maison. Les chefs de famille devraient y réfléchir sérieusement. Dans chaque famille chrétienne, il devrait y avoir un témoignage journalier rendu à Dieu et à sa parole. La famille se réunit chaque jour, et même plusieurs fois par jour, pour les repas. Cette réunion de tous les membres autour de la table de famille n'est pas considérée comme une routine ou un esclavage, si la famille est heureuse et qu'une bonne entente règne entre tous ses membres. De la même manière, cela doit être une chose heureuse pour des parents chrétiens de réunir la famille chaque jour pour lire quelques versets de l'Écriture et pour faire monter devant Dieu quelques paroles de prière et d'action de grâce. Cette habitude est en parfait accord avec l'Ancien et le Nouveau Testament. La prière et la parole de Dieu sont absolument essentielles à la prospérité de la vie chrétienne, de sorte que l'état spirituel d'un homme qui négligerait habituellement ces deux choses serait nécessairement mauvais. Il en est de même d'une famille où il n'y aurait ni lecture ni prière en commun. Rien ne peut bien aller dans une famille où la lecture de la Bible et la prière sont négligées. L'éducation des enfants. L'attention du peuple est attirée sur les scènes solennelles du mont Horeb, scènes qui auraient dû faire sur tous les cœurs une impression profonde et durable. Le jour où tu te tins devant l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, quand l'Éternel me dit « Assemble-moi le peuple, et je leur ferai entendre mes paroles, qu'ils apprendront pour me craindre tous les jours, qu'ils seront vivants sur la terre, et qu'ils enseigneront à leurs fils. » Verset 10. Il y a un rapport étroit entre écouter la parole de Dieu et craindre son nom. Le cœur qui aime la parole révérera le nom de Dieu et s'inclinera devant l'autorité divine en toutes choses. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Jean 14, versets 23 et 24. Celui qui dit « je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est menteur, et la vérité n'est pas en lui. Mais quiconque garde sa parole, en lui l'amour de Dieu est véritablement consommé. 1 Jean 2, versets 4 et 5. Toute personne qui aime vraiment Dieu gardera sa parole dans son cœur, et l'influence de cette parole se fera sentir dans toute sa vie, dans son caractère et dans sa conduite. Dans ce verset 10, Moïse souligne encore la responsabilité des Israélites à l'égard de leurs enfants. Ils ne devaient pas seulement écouter et apprendre eux-mêmes, ils devaient aussi enseigner leurs fils. Ce devoir ne peut être négligé sans qu'il en résulte de fâcheuses conséquences. Dieu attache une très grande importance à cette question. Nous l'entendons dire d'Abraham, « Car je le connais. Je sais qu'il commandera à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel pour pratiquer ce qui est juste et droit, afin que l'Éternel fasse venir sur Abraham ce qu'il a dit à son égard. » Genèse 18, verset 19. Dans toutes les dispensations, Dieu a donné son approbation à une éducation fidèle des enfants des siens selon sa parole. Il est vrai que nous ne pouvons faire de nos enfants des chrétiens et que nous ne devons pas en faire des formalistes. Mais nous ne sommes pas appelés à faire d'eux quelque chose. Nous avons simplement à remplir nos devoirs envers eux et à en laisser les résultats à Dieu. Nous avons reçu le commandement d'élever nos enfants dans la discipline et sous les avertissements du Seigneur. Éphésiens 6, verset 4. Dès que nous entrons dans une relation quelconque, nous sommes placés sous la responsabilité que cette relation comporte. Si nous la négligeons, nous aurons à en moissonner les tristes conséquences. Peut-être sentons-nous notre faiblesse pour nous acquitter convenablement de ce devoir. Mais il est écrit « Si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu qui donne à tous libéralement et qui ne fait pas de reproches, et il lui sera donné. » Jacques 1, verset 5. Il nous donnera la capacité nécessaire, il répondra à tous nos besoins, nous n'avons qu'à regarder à lui. Certaines personnes n'aiment pas le mot « devoir », il leur paraît légal. Il est pourtant certain que nous ne pouvons compter sur Dieu que dans le sentier du devoir. Parler de se confier en Dieu hors du chemin du devoir, c'est une illusion. Et quant à notre relation de parents, en négliger les devoirs, c'est attirer sur nous les plus désastreuses conséquences. Nous croyons que toute la question de l'éducation chrétienne se résume dans ces deux choses, compter sur Dieu pour nos enfants et les élever pour Dieu. Prendre garde à l'un de ces principes et négliger l'autre, nous conduirait hors d'un christianisme sain et pratique. Ils sont aussi essentiels l'un que l'autre. Relativement aux difficultés, nous n'avons qu'à recourir d'heure en heure au trésor inépuisable de notre Père Céleste. Nous obtiendrons ce dont nous avons besoin. Grâce, sagesse, force morale, tout ce qui nous rendra capables de bien remplir les devoirs qu'implique notre relation de parent. Que les parents chrétiens qui parcourent ces lignes ne se laissent pas décourager par les difficultés. Ils ont toutes les raisons de se confier joyeusement en Dieu. Qu'ils marchent d'un pas ferme dans le sentier du devoir. Là, ils peuvent compter sur Dieu pour les besoins de chaque jour, et, au temps convenable, ils moissonneront les fruits de leur travail. Élevez-les dans la discipline et sous les avertissements du Seigneur. Dans ce commandement par excellence est compris tout ce qui concerne l'éducation dès le berceau jusqu'à l'âge mûr. Nous disons « dès le berceau », car toute vraie éducation chrétienne commence dès la naissance. Les petits-enfants commencent très vite à tout observer et à tout comprendre. Très vite aussi, ils subissent l'influence morale de l'atmosphère qui les entoure. Quelle chose importante pour les enfants de voir leurs parents marcher dans l'amour, en harmonie, plein de sollicitude l'un pour l'autre et ayant des égards envers ceux qui les entourent. Qui peut imaginer, par exemple, le mauvais effet que peut produire sur un enfant des propos désobligeants échangés entre son père et sa mère? Nous désirons encore attirer l'attention des parents chrétiens sur un point d'une extrême importance, celui d'inculquer aux enfants le principe d'une vraie obéissance. L'ordre et le bien-être d'une famille en dépendent. Et, ce qui est infiniment plus important, cela touche à la gloire de Dieu et à la manifestation de sa vérité. Enfants, obéissez à vos parents en toutes choses, car cela est agréable dans le Seigneur. Éphésiens 6, verset 1, Colossiens 3, verset 20. L'enfant doit obéir dès son tout jeune âge. Il lui faut apprendre la soumission à une autorité établie de Dieu, et, comme le dit l'apôtre, en toutes choses. Et si l'on n'y prend pas garde dès le commencement, cela devient plus tard presque impossible. Dieu a mis entre les mains du Père les rênes du gouvernement, la verge de l'autorité, mais s'il tire continuellement les rênes, s'il se sert trop de la verge, il oublie cet autre principe scripturaire. Et vous, Père, ne provoquez pas vos enfants, mais élevez-les dans la discipline et sous les avertissements du Seigneur. Éphésiens 6, verset 4. Le père qui contrarie sans cesse la volonté de son enfant, en des choses de peu d'importance, a tort. Ce procédé tend plutôt à briser l'énergie de l'enfant, alors qu'il s'agit de briser sa volonté. L'enfant devrait toujours être convaincu que son père cherche uniquement son bien, et que s'il lui refuse quelque chose, c'est par un vrai intérêt pour lui et pour son bien. Les enfants diffèrent de caractère. Les uns ont une volonté particulièrement forte, un caractère obstiné, ce qui rend plus difficile la tâche de les élever. Mais cela ne change rien à la responsabilité que les parents ont d'exiger l'obéissance. Ils peuvent compter sur Dieu pour la grâce et la force nécessaires. Une mère laissée veuve, par exemple, mais comptant sur le Seigneur, sera rendue capable de diriger ses enfants et sa maison aussi bien que le chef de famille l'aurait fait. Le Dieu invisible. Alors vous vous êtes approchés et vous vous êtes tenus au bas de la montagne, et la montagne était brûlante de feu jusqu'au cœur des cieux, ténèbres, nuées et profonde obscurité. Et l'Éternel vous a parlé du milieu du feu. Vous entendiez la voix de ses paroles, mais vous n'avez vu aucune forme, seulement vous entendiez une voix. Et il vous déclara son alliance qu'il vous commanda de pratiquer, les 10 paroles. Et il les écrivit sur 2 tables de pierre. Et l'Éternel me commanda en ce temps-là de vous enseigner des statuts et des ordonnances pour que vous les pratiquiez dans le pays dans lequel vous allez passer pour le posséder. Versets 11 à 14. Moïse rappelle au peuple la scène solennelle du mont Horeb. Dieu ne s'était pas montré lui-même aux fils d'Israël. Il n'avait revêtu aucune forme corporelle dont ils aient pu se faire une image. Et il leur avait donné ses commandements d'une manière si claire qu'un enfant pouvait les comprendre. Les Israélites n'avaient nul besoin de s'imaginer à quoi Dieu était semblable. Le faire aurait été un péché. Et Moïse les met en garde à ce sujet. Ils étaient appelés à écouter la voix de Dieu, non à voir sa forme, à obéir à ses commandements, et non à se créer de lui une image. Dans la chrétienté, la superstition a cherché à honorer Dieu en faisant et en adorant des images. Mais la foi reçoit et garde les commandements de Dieu. « Si quelqu'un m'aime, dit notre Seigneur, il gardera ma parole. » Personne ne vit jamais Dieu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Jean 1, verset 18. Car c'est le Dieu qui a dit que du sein des ténèbres la lumière resplendit, qui a reluit dans nos cœurs pour faire luire la connaissance de la gloire de Dieu dans la face de Christ. 2 Corinthiens 4, verset 6. Jésus est le resplendissement de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa substance. Hébreux 1, verset 3. Il pouvait dire « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Jean 14, verset 9. De cette manière, le Fils révèle le Père, et c'est par la parole, par la puissance du Saint-Esprit, que nous connaissons quelque chose du Fils. C'est pourquoi la tentative de concevoir une image de Dieu ou de Christ autrement que par les Écritures n'est que de l'idolâtrie. Mise en garde contre l'idolâtrie. Et vous prendrez bien garde à vos âmes, car vous n'avez vu aucune forme au jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez quelque image taillée, la forme d'une image quelconque, la figure d'un mâle ou d'une femelle, la figure de quelque bête qui soit sur la terre, la figure de quelque oiseau ailé qui vole dans les cieux, la figure de quelque reptile du sol, la figure de quelque poisson qui soit dans les eaux, au-dessous de la terre, et de peur que tu ne lèves tes yeux vers les cieux et que tu ne vois le soleil et la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, et que tu ne te laisses séduire et ne te prosternes devant eux et ne les serves, lesquels l'Éternel ton Dieu a donné en partage à tous les peuples sous tous les cieux. Mais vous, l'Éternel vous a pris et vous a fait sortir d'Égypte, de la fournaise de fer, afin que vous soyez le peuple de sa possession, comme vous l'êtes aujourd'hui. Versets 15 à 20. Ces passages contiennent une vérité d'une grande importance pour nous aussi. Ils nous montrent que se faire une image quelconque et se prosterner devant elle, c'est se corrompre soi-même. Lorsque les Israélites ont fait le veau d'or, l'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte s'est corrompu. » Exode 32, verset 7. Quel spectacle! Toute la congrégation conduite par Aaron, le souverain sacrificateur, se prosternant devant une image taillée. Peut-on se représenter tous ces êtres intelligents, un peuple doué de raison et de conscience, disant d'un veau de fonte « C'est ici ton Dieu, ô Israël, qui t'a fait monter du pays d'Égypte ?» C'était véritablement destituer Dieu. Et ceux qui ont fait cela, ce sont ceux qui avaient été témoins des œuvres merveilleuses de l'Éternel en Égypte. Croyaient-ils réellement qu'une image taillée pouvait avoir fait trembler le Pharaon et les avoir fait sortir victorieusement d'Égypte? Un veau d'or avait-il pu partager les eaux et les conduire à travers la mer Rouge? Eh bien, Israël le disait. Car que n'est-on capable de dire lorsque l'œil et le cœur se sont détournés de Dieu et de sa parole? Mais, demandera-t-on peut-être, tout ceci s'adresse-t-il à nous aussi? Ces exhortations adressées à Israël contre l'idolâtrie nous concernent-elles? En premier lieu, souvenons-nous que toutes les choses qui ont été écrites auparavant ont été écrites pour notre instruction. Romains 15, verset 4. Quant à savoir si nous serions capables de commettre le péché grossier de l'idolâtrie, nous avons la réponse dans 1 Corinthiens 10, verset 1 à 13, où l'apôtre cite cette scène même du mont Horeb comme avertissement à l'Église. Nous engageons donc le lecteur à lire soigneusement le passage en entier. Nous apprenons ici qu'il n'y a aucun péché, aucune folie, aucune forme de dépravation morale dans laquelle nous ne serions sujets à nous plonger d'un moment à l'autre si nous n'étions gardés par la toute-puissance de Dieu. Il n'y a de vraie sécurité pour nous qu'à l'abri de la présence divine. Nous savons que l'Esprit de Dieu ne nous met pas en garde contre des choses auxquelles nous ne sommes pas enclins. Il ne nous dirait pas « Ne soyez pas non plus idolâtres » 1 Corinthiens 10, verset 7, si nous n'étions pas capables de le devenir. Ce n'est pas tellement de la forme extérieure de la chose qu'il est question, mais de la chose elle-même, de sa racine ou de son principe. Il nous est dit que la cupidité est de l'idolâtrie, Colossiens 3, verset 5. Ainsi, l'homme désireux de posséder plus que ce que Dieu lui a donné est coupable du péché d'Israël lorsqu'il fit le veau d'or et l'adora. L'apôtre dit aux Corinthiens, et nous dit, « C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. » 1 Corinthiens 10, verset 14. Serions-nous exhortés à fuir une chose à laquelle nous ne sommes pas sujets? Les paroles qui terminent la première épître de Jean, « Enfants, gardez-vous des idoles », ne nous disent-elles pas que nous sommes en danger d'adorer des idoles ? Nos cœurs perfides sont capables de se détourner de Dieu et de s'attacher à quelque autre objet en dehors de lui. Et cela, c'est de l'idolâtrie. Tout ce qui gouverne le cœur est une idole, que ce soit l'argent, le plaisir, le pouvoir ou autre chose. Une forme très particulière d'idolâtrie est dénoncée dans l'Épître aux Galates. Ces croyants avaient précédemment adoré des idoles, mais, ayant reçu l'Évangile, ils s'étaient tournés des idoles vers Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai. Cependant, des docteurs judaïsants étaient survenus, leur enseignant qu'à moins d'être circoncis et de garder la loi, ils ne pouvaient être sauvés. L'apôtre leur déclare qu'une telle chose n'était rien de moins qu'un retour à la grossière dégradation morale de leurs jours précédents. Alors, ne connaissant pas Dieu, vous étiez asservis à ceux qui, par leur nature, ne sont pas Dieu. Mais maintenant, ayant connu Dieu, comment retournez-vous de nouveau aux faibles et misérables éléments auxquels vous voulez encore de rechef être asservis ? Vous observez des jours et des mois et des temps et des années. Je crains, quant à vous, que peut-être je n'ai travaillé en vain pour vous. Galates 4, versets 8 à 11. Les Galates ne retournaient pas extérieurement au culte des idoles, mais le retour à la circoncision, à la loi, à l'observation des jours, n'était ni plus ni moins que retourner à leur ancienne idolâtrie. C'était se détourner du Dieu vivant et vrai, et de son Fils Jésus-Christ, et du Saint-Esprit. Que chacun examine sa position, ses habitudes, ses voies et ses relations, pour voir si, d'une manière ou d'une autre, il ne suit pas le même chemin que les assemblées de Galatie. Il y a dans les pratiques de la chrétienté beaucoup de choses qui n'ont d'autre effet que de détourner les âmes de Christ et de son glorieux salut. Le jour vient où les yeux de milliers d'âmes s'ouvriront. Ils verront alors que les erreurs les plus grossières et les plus sombres du paganisme peuvent se reproduire sous le couvert du christianisme. Moïse privé d'entrée en Canaan. Pour la troisième fois, Moïse rappelle à la congrégation la discipline de Dieu envers lui. Il en avait parlé, comme nous l'avons vu au chapitre 1, verset 37, et au chapitre 3, verset 26. Il leur dit ici, « Et l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous, et il jura que je ne passerai pas le Jourdain et que je n'entrerai pas dans le bon pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage, car pour moi je mourrai dans ce pays. Je ne passerai pas le Jourdain, mais vous allez le passer et vous posséderez ce bon pays. » Versets 21 et 22. Pourquoi répéter trois fois cette allusion au même fait ? Et pourquoi chaque fois mentionner expressément que l'Éternel a été irrité contre lui à cause d'eux ? Moïse ne voulait ni accabler le peuple, ni se disculper. Ce qu'il voulait, c'était donner le plus possible de force morale et de solennité à son exhortation. Si l'Éternel était irrité contre un homme tel que Moïse, à cause de sa parole imprudente aux eaux de Mériba, combien plus, eux, devaient-ils prendre garde ? C'est une chose sérieuse d'avoir affaire avec Dieu. Une chose bénie, sans doute, mais des plus sérieuses, comme le législateur lui-même dut en faire l'expérience en sa personne. C'est ce que confirment les versets suivants. La discipline de Dieu. Prenez garde à vous, de peur que vous n'oubliez l'alliance de l'Éternel votre Dieu, qu'il a traité avec vous, et que vous ne vous fassiez une image taillée, la forme d'une chose quelconque, ce que l'Éternel ton Dieu t'a commandé de ne pas faire. Car l'Éternel ton Dieu est un feu consumant, un Dieu jaloux. Versets 23 et 24. Il nous faut laisser à cette vérité tout son poids moral. On entend dire parfois « c'est pour le monde que Dieu est un feu consumant ». Il est bien vrai qu'il le sera dans la suite, mais maintenant il agit envers le monde en grâce, en patience et en longanimité. L'apôtre Pierre nous dit « car le temps est venu de commencer le jugement par la maison de Dieu ». Mais s'il commence premièrement par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu ? 1 Pierre 4, verset 17. Nous lisons aussi dans Hébreux 12, verset 29 « car aussi notre Dieu est un feu consumant ». Ce verset ne parle pas de ce que Dieu sera pour le monde, mais de ce qu'il est pour nous. Notre Dieu est un feu consumant. Il veut non pas nous consumer, mais consumer le mal en nous et dans nos voies. Il ne peut tolérer en nous quoi que ce soit de contraire à sa sainteté, et par conséquent à notre vrai bonheur et à notre bénédiction. Comme Père Saint, il nous maintient dans une voie digne de lui-même. S'il nous châtie, c'est afin de nous rendre participants à sa sainteté. Il laisse le monde suivre ses voies, n'intervenant pas publiquement, mais il juge sa maison et il châtie ses enfants afin qu'ils répondent mieux à ses pensées et qu'ils reflètent son image morale. C'est un immense privilège. Dans sa grâce infinie, notre Dieu condescend à s'intéresser lui-même à chacun de nous, à s'occuper de nos infirmités, de nos manquements et de nos péchés, afin de nous en délivrer. Rappelons encore un passage remarquable relatif à ce sujet. « Mon fils, ne méprise pas la discipline du Seigneur, et ne perds pas courage quand tu es repris par lui. Car celui que le Seigneur aime, il le discipline, et il fouette tout fils qu'il agrée. Vous endurez des peines comme discipline ? Dieu agit envers vous comme envers des fils, car qui est le fils que le Père ne discipline pas ? Mais si vous êtes sans la discipline à laquelle tous participent, alors vous êtes des bâtards et non pas des fils. De plus, nous avons eu les pères de notre chair pour nous discipliner, et nous les avons respectés. Ne serons-nous pas beaucoup plus tôt soumis au Père des esprits et nous vivrons ? Car ceux-là disciplinaient pendant peu de jours, selon qu'ils le trouvaient bon, mais celui-ci nous discipline pour notre profit, afin que nous participions à sa sainteté. Or, aucune discipline pour le présent ne semble être un sujet de joie, mais de tristesse. Mais plus tard, elle rend le fruit paisible de la justice à ceux qui sont exercés par elle. C'est pourquoi redressez les mains lassées et les genoux défaillants. Hébreux 12, versets 5 à 12. Il y a trois manières de recevoir la discipline divine. Nous pouvons la mépriser, en la considérant comme un événement fortuit qui peut arriver à chacun. Nous n'y voyons pas la main de Dieu. Nous pouvons aussi perdre courage sous son poids, estimant qu'il est trop lourd à porter. Nous ne reconnaissons pas le cœur du Père dans ce qu'il nous dispense, ni son but miséricordieux, qui est de nous rendre participants à sa sainteté. En dernier lieu, nous pouvons être exercés par elle. C'est le moyen de recueillir ensuite le fruit paisible de la justice. Nous n'osons pas mépriser une chose dans laquelle nous reconnaissons la main de Dieu. Nous ne pouvons pas perdre courage lors d'une épreuve dans laquelle nous discernons clairement le cœur du Père qui nous aime. Il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces, mais il donnera une issue à l'épreuve afin que nous puissions la supporter. Il nous explique aussi son but dans la discipline et nous assure que chaque coup de sa verge est une preuve de son amour. Nous sommes entre les mains de celui dont l'amour est infini, la sagesse infaillible et qui est tout-puissant. S'il nous châtie, c'est parce qu'il nous aime et cherche notre bien réel. Nous pouvons trouver l'épreuve pénible et nous demander parfois comment l'amour peut nous infliger la souffrance et la maladie. Mais souvenons-nous que l'amour divin est sage et fidèle et qu'il ne dispense les peines, la maladie ou le deuil que pour notre profit et notre bénédiction. Une bonne et tendre mère peut appliquer un remède douloureux à son enfant qu'elle aime. Elle sait parfaitement que ce remède le fera souffrir. Pourtant, elle l'applique sans hésiter, sachant que la chose lui est absolument nécessaire. Ainsi, tandis que l'enfant n'est occupé que de la douleur passagère, la mère pense au bien permanent. Et si l'enfant pouvait être en communion de pensée avec la mère, le remède ne lui semblerait pas si dur à supporter. C'est une image de la manière dont notre Père agit envers nous. Et si nous savions nous le rappeler, ce serait d'un grand secours pour supporter tout ce que sa main trouve bon de nous infliger. Que Dieu nous accorde une foi et une confiance qui puisse dire avec assurance « Je sais que cette souffrance passagère opère une bénédiction éternelle. Je sais que le Père qui m'aime m'a mis dans ce creuset pour me purifier des impuretés de la chair et reproduire en moi sa propre image. » Donc cette souffrance est la meilleure chose pour moi. Naturellement, je la sens, mais c'est l'intention de mon Père céleste que je la sente. Sans cela, elle ne me ferait aucun bien. Histoire prophétique d'Israël. Quand tu auras engendré des fils et des petits-fils, et que vous aurez vécu longtemps dans le pays, et que vous vous serez corrompus, et que vous aurez fait une image taillée, la forme d'une chose quelconque, et que vous aurez fait ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, ton Dieu, pour le provoquer à colère, j'appelle aujourd'hui à témoin contre vous les cieux et la terre, que vous périrez bientôt entièrement de dessus le pays, où, en passant le Jourdain, vous entrez afin de le posséder. Vous n'y prolongerez pas vos jours, car vous serez entièrement détruits. Et l'Éternel vous dispersera parmi les peuples, et vous resterez en petit nombre parmi les nations où l'Éternel vous mènera. Et vous servirez là des dieux, ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre, qui ne voient ni n'entendent, ni ne mangent, ni ne flairent. Versets 25 à 28. Hélas, toutes ces terribles prophéties ont été littéralement accomplies dans l'histoire de la nation. Mais, béni soit Dieu, il y a miséricorde aussi bien que jugement. Notre Dieu n'est pas seulement un feu consumant et un Dieu jaloux. Il est en vérité un feu consumant, parce qu'il est saint. Il est jaloux, parce qu'il ne peut supporter un rival quelconque dans le cœur de ceux qu'il aime. Mais Moïse peut aussi annoncer la restauration future. Et de là, vous chercherez l'Éternel, ton Dieu, et tu le trouveras, si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Dans ta détresse, et lorsque toutes ces choses t'auront atteint, à la fin des jours, tu retourneras à l'Éternel, ton Dieu, et tu écouteras sa voix. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu miséricordieux. Il ne t'abandonnera pas et ne te détruira pas, et il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il leur a jurée. Versets 29 à 31. Nous avons ici un remarquable coup d'œil dans l'avenir d'Israël. Leur séparation de Dieu, leur dispersion parmi les nations et la perte de leur gloire nationale. Mais, Dieu soit béni, il y a quelque chose au-delà de tous ces manquements, de cette ruine et de ce jugement. En considérant la dernière phase de la triste histoire d'Israël, nous voyons le déploiement de la grâce du Dieu de leur père. Il y a deux côtés de l'histoire d'Israël, la partie historique et la partie prophétique. La première rapporte leur ruine complète, l'autre révèle le remède de Dieu. Le passé d'Israël a été sombre et triste, son avenir sera brillant et glorieux. Dans le premier, nous voyons les misérables actions des hommes. Dans le dernier, nous apprenons les voies merveilleuses de Dieu. Le passé nous donne l'illustration de ce qu'est l'homme. L'avenir, la brillante démonstration de ce que Dieu est. Accomplissement final des promesses divines. Nous attirons l'attention du lecteur sur les enseignements contenus dans le dernier passage cité. En peu de mots, il réunit toutes les vérités relatives au passé, au présent et à l'avenir d'Israël. Moïse annonce que le peuple se corrompra, sombrera dans l'idolâtrie et fera ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel pour le provoquer à colère. C'est bien là ce qui s'est passé, ainsi que nous l'apprend l'Ancien Testament. Tel est le passé d'Israël. Quant à leur état présent, ils sont un monument de la vérité impérissable de Dieu. Israël demeure un peuple dispersé parmi les nations. Le passé et le présent d'Israël attestent tous deux la vérité de la parole de Dieu. L'avenir la confirmera également par un accomplissement littéral de la prophétie. Le même esprit a dicté les pages qui sont maintenant de l'histoire et celles qui sont encore de la prophétie. Elles sont aussi vraies l'une que l'autre. Et de même que l'histoire nous rapporte le péché et la dispersion d'Israël, la prophétie nous prédit le repentir du peuple et son relèvement. La foi n'a aucune hésitation quant à la repentance et à la restauration future d'Israël. Presque tous les prophètes, depuis Ésaïe jusqu'à Malachie, publient les bénédictions futures, la prééminence et la gloire de la descendance d'Abraham. En plus, les enseignements du Nouveau Testament sont en parfaite harmonie avec la voix des prophètes. Mettre en question la restauration d'Israël dans son propre pays et les bénédictions finales dont ce peuple jouira sous le règne du Messie serait ignorer ou nier le témoignage des prophètes et des apôtres écrivant sous l'inspiration directe de Dieu. Il est étrange que des chrétiens puissent ignorer ou nier ces témoignages. Cependant, plusieurs le font et l'ont fait, soit par suite de préjugés religieux, soit en vertu de certaines tendances théologiques. Mais, quelles que puissent être les idées des hommes, la vérité glorieuse du rétablissement d'Israël brille avec clarté dans les pages prophétiques, et tous ceux qui cherchent à la rejeter ou à l'interpréter de quelque autre manière, non seulement refusent la clarté des Saintes Écritures et contredisent la voix unanime des apôtres et des prophètes, mais encore s'ingèrent dans les conseils et les promesses du Dieu d'Israël pour aboutir finalement à annuler son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. C'est une chose bien sérieuse de s'engager dans cette voie. Quiconque applique à l'Église les promesses faites aux pères dans l'Ancien Testament commet une grave erreur. Personne n'a le droit d'aliéner tant soit peu les promesses faites aux pères d'Israël. Les voies de Dieu envers les patriarches et les promesses qu'il leur a faites sont profondément instructives pour nous, et nous pouvons en tirer des applications pour ce qui nous concerne. Mais il faut toujours nous souvenir que, dans leur sens premier, elles s'appliquent à d'autres que nous. Lorsque, sous l'influence d'un système d'interprétation appelé spiritualiste, on applique à l'Église ou aux croyants du Nouveau Testament des prophéties qui s'appliquent à Israël, on enseigne des choses contraires à la pensée et au cœur de Dieu. Il aime Israël. Il l'aime à cause des pères. Et nous pouvons être assurés qu'il n'approuve pas notre intervention dans leur position, leur part ou leurs espérances. Nous n'avons pas à ignorer le vrai sens et la force morale des paroles de Paul au chapitre 11 de l'Épître aux Romains. Parlant d'Israël, en rapport avec l'olivier de la promesse, l'apôtre dit « Et eux aussi, s'ils ne persévèrent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Car si toi tu as été coupé de l'olivier qui, selon la nature, était sauvage, et a été hanté contre nature sur l'olivier franc, combien plus ceux qui sont selon la nature seront-ils hantés sur leur propre olivier ? Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère-ci, afin que vous ne soyez pas sages à vos propres yeux, c'est qu'un endurcissement partiel est arrivé à Israël jusqu'à ce que la plénitude des nations soit entrée, et ainsi tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit « Le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob l'impiété ». Et c'est là l'alliance de ma part pour eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont bien-aimés à cause des pères. Car les dons de grâce et l'appel de Dieu sont sans repentir. Car comme vous aussi vous avez été autrefois désobéissants à Dieu, et que maintenant vous êtes devenus des objets de miséricorde par la désobéissance de ceux-ci, de même ceux-ci aussi ont été maintenant désobéissants à votre miséricorde, afin qu'eux aussi deviennent des objets de miséricorde. Romains 11, versets 23 à 31. C'est-à-dire qu'au lieu d'entrer dans la bénédiction sur le terrain de la loi ou de leur descendance selon la chair, ils viendront simplement, tout comme les gentils, sur le terrain de l'élection selon la grâce souveraine. Car Dieu a renfermé tous, juifs et nations, dans la désobéissance, afin de faire miséricorde à tous. Romains 11, verset 32. Ce texte de l'Épître aux Romains est en parfait accord avec l'enseignement du quatrième chapitre du Deutéronome. La condition présente d'Israël est le fruit de sa désobéissance. Sa gloire future sera le fruit de la riche et souveraine miséricorde de Dieu. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu miséricordieux. Il ne t'abandonnera pas et ne te détruira pas. Et il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il leur a jurée. Car enquière-toi donc des premiers jours qui ont été avant toi, depuis le jour où Dieu a créé l'homme sur la terre, et d'un bout des cieux jusqu'à l'autre bout des cieux. Si jamais il est rien arrivé comme cette grande chose, et s'il a été rien entendu de semblable. Est-ce qu'un peuple a entendu la voix de Dieu parlant du milieu du feu, comme toi tu l'as entendu et es demeuré en vie ? Ou Dieu a-t-il essayé de venir prendre pour lui une nation du milieu d'une nation, par des épreuves, par des signes, et par des prodiges, et par la guerre, et à main forte et à bras étendus, et par de grandes terreurs, selon tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait pour vous en Égypte, sous tes yeux ? Cela t'a été montré, afin que tu connaisses que l'Éternel est Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre que lui. Des cieux, il t'a fait entendre sa voix, pour t'instruire, et, sur la terre, il t'a fait voir son grand feu, et tu as entendu ses paroles du milieu du feu. » Versets 31 à 36. Le grand objet de toutes les voies divines relativement à Israël ressort de ses paroles avec force. C'était afin qu'ils puissent connaître que l'Éternel était le seul Dieu vivant et vrai, et qu'il n'y en avait aucun autre en dehors de lui. Le dessein de Dieu était qu'Israël soit un témoin pour lui sur la terre. Et c'est bien ce qu'il sera, quoiqu'il ait failli au point que le nom de Dieu a été blasphémé à cause d'eux parmi les nations. Mais l'alliance de l'Éternel existera à toujours. Israël sera un témoin vivant de Dieu sur la terre et le canal de riche bénédiction pour toutes les nations. L'Éternel a juré qu'il en serait ainsi, et rien ne pourra empêcher le plein accomplissement de tout ce qu'il a prononcé. Sa gloire est intéressée à l'avenir d'Israël, et si un seul iota de sa parole devait tomber, ce serait un déshonneur jeté sur son grand nom et un triomphe de l'ennemi. Chose complètement impossible. L'anneau qui relie les bénédictions futures d'Israël et la gloire de l'Éternel ne peut être brisé. L'amour de Dieu pour les ancêtres d'Israël. Une autre vérité est mise en avant dans notre chapitre. C'est que non seulement la gloire de l'Éternel est intéressée au relèvement et aux bénédictions futures d'Israël, mais que son cœur y est engagé. C'est ce qui est révélé dans les paroles suivantes. « Et parce qu'il a aimé tes pères, et qu'il a choisi leur semence après eux, il t'a fait sortir d'Égypte par sa face, par sa grande puissance, pour déposséder devant toi des nations plus grandes et plus fortes que toi, pour t'introduire dans leur pays, afin de te le donner en héritage, comme il paraît aujourd'hui. » Versets 37 et 38. De cette manière, la vérité de la parole de Dieu, la gloire de son nom et l'amour de son cœur sont engagés dans ses dispensations envers la postérité d'Abraham, son ami. Bien que les Juifs aient transgressé la loi, déshonoré le nom de Dieu, méprisé sa grâce, rejeté ses prophètes, crucifié son fils et résisté à son esprit, bien qu'en conséquence ils soient dispersés et destinés à passer par une tribulation future sans exemple, cependant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob glorifiera son nom, ratifiera sa parole et manifestera l'amour immuable de son cœur dans l'histoire à venir de son peuple terrestre. Rien ne peut changer l'amour de Dieu. Dieu s'est engagé en faveur de la postérité d'Abraham. Il a promis de lui donner le pays de Canaan à toujours. Ses dons de grâce et son appel sont sans repentir. Romains 11, verset 29. Obéissance fondée sur l'œuvre d'amour de Dieu. Moïse résume ainsi le discours qui figure dans notre chapitre. Sache donc aujourd'hui et médite en ton cœur que l'Éternel est Dieu dans les cieux en haut et sur la terre en bas. Il n'y en a point d'autre. Et garde ses statuts et ses commandements que je te commande aujourd'hui, afin que tu prospères, toi et tes fils après toi, et que tu prolonges tes jours sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour toujours. Versets 39 et 40. Nous voyons ici que l'obéissance que Dieu réclamait de son peuple était fondée sur ce qu'il avait révélé de lui-même et sur ses voies merveilleuses à leur égard. L'Éternel les exhortait par tous les arguments susceptibles d'agir sur leur cœur, leur conscience et leur intelligence. Celui qui les avait retirés du pays d'Égypte à main forte et à bras étendus, qui avait fendu les eaux pour leur frayer un passage à travers la mer, qui leur avait envoyé du pain du ciel et leur avait fait sortir de l'eau du rocher, et tout cela pour la gloire de son grand nom et parce qu'il aimait leur père, avait sûrement droit à leur entière obéissance. Les droits de Christ sur nous ont-ils de la puissance sur nos cœurs? Nous rappelons-nous que nous ne sommes plus à nous-mêmes, mais que nous avons été rachetés au prix infini du sang de Christ? Cherchons-nous nos aises et une bonne position dans le monde qui a crucifié notre Seigneur et Sauveur? Sondons notre cœur en toute honnêteté, à la lumière de sa présence, et recherchons quel est l'objet qui gouverne notre cœur. Pesons ces questions à la lumière même du tribunal de Christ. Des attaques contre les livres de Moïse. Nous vivons un temps où les conducteurs mêmes et les docteurs de la chrétienté n'ont pas honte d'attaquer les fondements du christianisme. Des gens soi-disant chrétiens met en question l'authenticité des cinq livres de Moïse et en même temps celle de la Bible entière. Les écrits de Moïse se lient si intimement à toutes les autres parties du volume divin que si on y touche, tout croule. Notre Seigneur, en parlant aux Juifs, dit ceci : Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Il y en a un qui vous accuse, Moïse, en qui vous espérez. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car lui a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas ses écrits, comment croirez-vous mes paroles ? Jean 5, versets 45 à 47. Un homme qui ne croit pas aux écrits de Moïse et ne les reçoit pas comme divinement inspirés ne croit pas aux paroles de Christ, et il ne peut donc pas être un chrétien. Écoutons encore le reproche du Sauveur ressuscité aux deux disciples d'Emmaüs. Ô gens sans intelligence et lents de cœur à croire toutes les choses que les prophètes ont dites, ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ? Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures les choses qui le regardent. Luc 24, versets 25 à 27. Puis encore, aux onze et aux autres avec eux, il dit : Ce sont ici les paroles que je vous disais quand j'étais encore avec vous, qu'il fallait que toutes les choses qui sont écrites de moi dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes fussent accomplies. Luc 24, verset 44. Notre Seigneur reconnaît manifestement la loi de Moïse comme faisant partie intégrante du canon inspiré. Nier l'authenticité du Pentateuque, c'est comme si l'on affirmait que le Seigneur a donné la sanction de son autorité à une série de documents faux en les citant comme des écrits de Moïse, tandis que Moïse ne les aurait pas écrits. Citons encore le passage qui termine la parabole de l'homme riche et de Lazare. Mais Abraham lui dit : Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Mais il dit : Non, père Abraham, mais si quelqu'un va des morts vers eux, ils se repentiront. Et il lui dit : S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas persuadés non plus si quelqu'un ressuscité d'entre les morts. Luc 16, versets 29 à 31. Ajoutons encore que notre Seigneur, dans sa lutte avec Satan au désert, lui cite les écrits de Moïse. Trois villes de refuge en deçà du Jourdain. Alors Moïse sépara trois villes en deçà du Jourdain, vers le soleil levant, afin que l'homicide qui aurait tué son prochain sans le savoir, et qui ne l'aurait pas haï auparavant, s'y enfuit et que, s'enfuyant dans l'une de ces villes-là, il vive. Bétser, dans le désert, sur le plateau qui est au Rubénite, et Ramoth, en Galaad, qui est au Gadite, et Golan, en Basan, qui est au Manassite. Versets 41 à 43. Ici, nous voyons comment la grâce de Dieu s'élève au-dessus des faiblesses et des manquements humains. Les deux tribus et demi, en choisissant leur héritage en deçà du Jourdain, restaient séparés de la portion propre à Israël au-delà du fleuve de la mort. Mais, malgré leur manquement, Dieu ne voulait pas laisser le meurtrier involontaire sans refuge au jour de sa détresse. Dieu descend jusque dans les profondeurs des besoins de l'homme. Les deux tribus et demi devaient avoir autant de villes de refuge en deçà du Jourdain que les neuf tribus et demi au pays de Canaan. C'était une abondance de grâce, une manière d'agir bien différente de celle de l'homme. Une justice légale aurait pu dire aux deux tribus et demi : Si vous choisissez votre héritage en dehors des limites divines, il ne faut pas vous attendre à jouir des privilèges et des bénédictions du pays. Les institutions de Canaan sont exclusives à Canaan. Mais la grâce parle différemment. Les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres, ni ses voies nos voies. Et le territoire en deçà du Jourdain était pourvu d'une aussi abondante provision de grâce que le pays de Canaan tout entier. Cela prouve-t-il que les deux tribus et demi avaient raison ? Non, mais cela prouve que Dieu est bon et qu'il agit toujours selon ce qu'il est, en dépit de toute notre faiblesse. Sa grâce vient au devant de celui qui en a besoin.